France Culture.
Ici, c'est la Kunsthalle de Brême, le musée des Beaux-Arts. Et c'est ici que Paula Modersohn-Becker a exposé quelques tableaux dans une exposition collective. Elle s'était attirée de très très mauvaises critiques. Vraiment, sa peinture passait pas du tout à l'époque auprès des esthètes allemands. Et en 1906, quand Gustav Pauli, qui était un historien d'art, a pris la direction de la Kunsthalle, un an avant la mort de Paula, il a exposé aussi des tableaux d'elle. Et il a reconnu que c'était quand même un talent vraiment intéressant et à suivre, même s'il disait que peut-être le grand public aurait peut-être du mal à comprendre à quel point elle était intéressante. Donc on va entrer dans ce beau bâtiment à colonnes. Paula Modersohn-Becker, 1876-1907, la peinture absolument. Un documentaire de Julien Thèves réalisé par Marie-Laure Ciboulet.
C'est un ami peintre qui m'en a parlé pour la première fois.
Maud Maris, peintre.
Et puis j'ai découvert son travail, j'ai eu la chance de voir son exposition au Musée d'Art Moderne de Paris en 2016. Et donc c'était une grande découverte pour moi. Mais à cette période-là, je ne peignais pas du tout de cette façon-là. Et donc finalement, je pense que ça a infusé sur plusieurs années, sur 10 ans en fait. Et puis là, depuis quelques années, effectivement, le catalogue de Paula est sur mon bureau dans l'atelier, est vraiment présent et nourrit très régulièrement mon travail. Et je dois dire que même elle m'aide beaucoup, elle m'apporte des solutions. Parfois, simplement, je vais ouvrir le catalogue et puis je vais y trouver une solution pour un tableau qui me pose problème depuis un certain temps. Ou bien simplement, elle va me donner l'impulsion pour peindre.
Un seul but occupe mes pensées. Consciemment et inconsciemment. Peindre, peindre, peindre. Je crois que je vis très intensément au présent.
On est entré à la Kunsthalle de Brême. On va chercher les tableaux de Paula Modersohn-Becker. Il y a une salle entière qui lui est consacrée, je crois.
J'ai reçu un jour un courriel, c'était pour un colloque de psychanalyse.
Marie Dariussec, écrivaine, autrice de « Être ici est une splendeur », vie de Paula M. Becker.
Et il y avait une petite illustration, toute petite, d'une femme qui allaitait. Enfin, j'ai été frappée par cette image parce que la femme est allongée, le bébé est allongé. Et c'est une image très différente des madones allaitantes où elles sont assises inconfortablement avec un bébé tout raide. Je me suis dit « Qui a peint ça ?» Et j'ai réussi à trouver son nom. Ça ne me disait rien. Et j'ai demandé à mon amie Elisabeth Lebovici, une grande critique d'art,
par là.
Qui m'a dit, mais oui, c'est une femme, c'est une peintre très intéressante.
Ah, je pense que c'est plutôt par là.
Puis j'ai commencé à chercher, il y avait peu de choses sur Internet, parce que voilà, j'ai commencé à chercher vers 2010 ou 12, je dirais. Et je ne parle pas allemand, donc donc il y avait peu de choses qui n'étaient pas en allemand. Et je suis tombée en amour, en fait, avec cette femme, morte très jeune. La grande autre piste, c'était son amitié avec Rilke, qui était un poète que je lisais beaucoup à l'époque. Et son dernier mot, qui m'est apparu très vite, Schade, moi qui ne parle pas allemand, ça veut dire dommage. Elle s'écroule à 31 ans, et elle dit dommage. Enfin, c'était déjà une histoire, en fait. Et puis son œuvre, je me suis dit, mais... Moi, ça faisait des années que j'écrivais pour Beaux-Arts Magazine et Art Review à Londres. Je ne la connaissais pas. Mais comment était-ce possible?
Ouais, voilà. Voilà Paula. Elle a quand même une salle pour elle toute seule, avec certaines de ses plus belles œuvres, comme la petite fille au sarrau gris, avec ses sabots, juchée sur une petite chaise. Et à côté, un tableau de Munch, en regard. Une enfant devant le lit de mort de sa mère, qui a le même âge que la petite fille de Paula. Donc en fait, là, principalement, ce sont des œuvres de Paula Modersohn-Becker. Il y a des natures mortes, il y a des objets, il y a des portraits, il y a des paysages. C'est une salle carrée. Il y a des œuvres très célèbres. Elle est souvent peinte avec son collier. C'est très beau. Il y a environ une vingtaine de toiles, je pense. Toutes de format petit, voire moyen. Il y a un portrait d'homme, elle peignait pas beaucoup les hommes. et beaucoup de femmes.
J'étais en train de travailler sur une anthologie autour de la thématique de l'utérus, du ventre. Et je suis tombée sur un article d'une universitaire américaine.
Maya Brahmi, écrivaine, autrice de Paula Baker, La peinture faite femme.
Et ce que j'ai vu devant moi, c'était l'autoportrait de Paula Modersohn Baker. Et on la voit effectivement dévêtue, avec un ventre qui pourrait rappeler un début de grossesse. Et j'ai eu un coup de foudre en fait pour Paula. C'est-à-dire que je suis tombée dans ses yeux, je suis tombée dans son corps, je suis tombée dans son ventre. J'ai compris qu'il y avait toute une énigme et tout un mystère autour de cette toile. Et j'ai voulu en savoir plus.
Alors, qui était Paula Modersohn Baker? Elle était née à Dresde, dans une famille bourgeoise. Elle est femme, donc dans un monde extrêmement patriarcal. Alors, mais elle a quand même quelques atouts pour essayer de créer.
C'est des bourgeois, mais ils ne sont pas si riches que ça. Lui, il est ingénieur des chemins de fer. La maman, c'est une aristocrate un peu déclassée. Ce qui fait qu'effectivement, la maman va louer une chambre de la maison pour payer des cours de dessin à sa fille. Ça donne aussi une idée de leur niveau de vie. Ils ne sont pas si riches que ça. Et les enfants doivent travailler. Et les femmes aussi, ce qui n'est pas si fréquent dans la bourgeoisie, disons. Il y a un certain niveau de richesse, mais ce n'est pas...
Mais c'est culturel aussi. C'est une richesse
alors voilà, culturelle. Alors il y a un grand privilège culturel, comme on dit aujourd'hui. Et les parents acceptent qu'elle prenne des cours de dessin, surtout la maman. La maman voit qu'elle a du talent, en fait. Mais il n'est pas question qu'elle soit peintre professionnellement. Ça, c'est quelque chose
C'est impensable.
Un moment délicieux de son journal, c'est quand son père lui envoie une lettre très raisonnable en lui disant « ils ont 5 enfants, il faut que tu travailles maintenant ». Donc, institutrice ou gouvernante, on est en 1900. Et la réaction de Paula, qu'elle raconte dans son journal, c'est qu'elle s'allonge dans la bruyère et elle lit Pan de Knut Hamsun, qui est à l'époque un best-seller et qui célèbre la vie et l'instant présent. C'est cette femme qui veut lire dans la bruyère et peindre.
Londres, 1892. J'ai cours là tous les jours de 10h à 4h. D'abord, je ne fais que dessiner, à savoir des arabesques toutes simples. Si j'ai fait des progrès, je dessinerai au fusain d'après des modèles grecs. Au cas où je serai encore plus avancée, je dessinerai et peindrai d'après des modèles vivants.
Elle a eu la chance de faire un premier séjour à Londres quand elle avait 16 ans, où elle a pu prendre quelques cours dans une académie anglaise. Et ensuite, son père a exigé d'elle qu'elle fasse quand même une formation d'institutrice.
Sabine Ossenac, doctorante au Centre d'études et de recherches germaniques de l'Université de Toulouse.
Mais lui a permis ensuite de partir 2 ans étudier à Berlin dans une académie privée. C'est vrai que les beaux-arts étaient, que ce soit en France ou en Allemagne, interdits aux femmes. Il y a eu très tôt, on va dire, dans le courant du 19e, des sociétés, des associations d'artistes peintres qui s'étaient créées, qui ont essayé de lutter pour ça. Par exemple, en Allemagne, il y a eu en 1867 déjà l'association des artistes berlinoises. À Munich, c'est en 1882 qu'une académie pour les femmes s'était créée. Mais le problème, c'est qu'il fallait payer.
Berlin, 1896. 4 après-midi de la semaine sont consacrés à mon enseignement de dessin. C'est lui qui constitue maintenant le contenu de mes pensées. Quand je parle à quelqu'un, j'observe avec application quelle ombre fait le nez, comment l'ombre profonde sur la joue commence énergiquement et pourtant se fond avec la lumière. C'est cette fusion que je trouve la plus difficile. Je dessine encore chaque ombre en la marquant trop. Je couche encore sur le papier trop de choses sans importance. Mes têtes sont encore trop comme du bois et immobiles.
Elle avait découvert Hobsvede lors d'une excursion familiale pour les noces d'argent de ses parents en 1895.
Hobsvede, c'était cette colonie d'artistes à une vingtaine de kilomètres de Brême.
Oui, elle s'y est installée après avoir vu aussi une exposition des artistes qui l'avait beaucoup impressionnée à la Kunsthalle de Brême. Et elle s'y est installée effectivement en 1898 pour prendre des cours d'un des fondateurs de la colonie, Fritz Mackensen. Et elle a adoré en fait vivre dans ce petit phalanstère, ce microcosme artistique qui était à l'image des autres colonies européennes ou américaines, vraiment constitué de gens passionnés qui venaient pour faire la Freiluftmalerei, donc la peinture en plein air. Un Worpswede en fait centralisait tout ce dont ces artistes avaient besoin, puisqu'il y avait le chemin de fer qui les amenait facilement là. Il y avait de quoi se loger, il y avait une auberge et des paysages relativement magnifiques.
la qualité de Vorpsved qu'il fait de vraiment un village original, parce qu'il y a la colline.
Ouais.
Mais le reste est plat, comme tout le paysage ici, et ça c'est déjà extraordinaire.
Stefan Borchardt, curateur de la Grosse Kunstschau de Vorpsved.
Jusqu'à aujourd'hui, tous les artistes nous disent qu'il y a quelque chose ici qui est différent des autres paysages environ, c'est la lumière. Et ça change toujours un peu. Et aujourd'hui, c'est très clair, il y a le soleil, et c'est très extraordinaire. Normalement, c'est une lumière plus diffuse, des gris coloreux, hein, comme ça. Aussi un peu le caractère avec les paysans et ceux qui ont travaillé dans les...
Dans la tourbière.
Oui, c'est ça.
On pouvait même faire flamber la tourbe pour se chauffer.
Oui, c'est ça. Mais il y a aussi un autre aspect qu'il faut avoir dans la tête si on parle sur les colonies d'artistes. C'est dans les paysages, c'est rural, mais c'est toujours pas trop loin des métropoles. Hein. C'est à Paris, avec Barbizon. Et puis ici, c'est la même chose, il y a Brême.
Ils sont arrivés en quelle année, les artistes, à Vorpsved?
Alors, celui qui a découvert Vorpsved comme un lieu artistique, c'était Fritz Mackensen. Il était étudiant à Düsseldorf pour la peinture et il s'est installé ici en 1889 avec des copains, Otto Modersohn, Hans Amende et puis Fritz Overbeck. Ça, c'était la cellule, on dirait, des artistes de Vorpsved ici. Ils avaient vraiment l'idée de travailler ensemble, mais aussi de vivre en quelque sorte ensemble, d'être une communauté amicale et un échangement permanent, artistique, personnel. Et ça, c'est quelque chose qu'a vécu Paula Modersohn, Paula Becker, à ce temps-là, et qu'elle a aimé beaucoup.
C'est dans le mouvement de l'écriture que j'ai eu besoin d'aller voir ces tableaux en vrai. Donc je raconte dans le livre comment j'embarque toute ma famille stupéfaite en camping-car en Allemagne au mois d'août, avec tout le reste de l'Europe qui partait dans l'autre sens. C'était assez amusant, on est allé de tableau en tableau. Donc il y a un enseignement très riche à Vorpsved. C'est un pays plat, de canaux, très joli, avec des forêts de bouleaux. C'est l'Allemagne profonde, paysanne. La grande différence d'emblée avec les peintres qui sont sur place avec Paula, c'est qu'elle va pas du tout se diriger vers un art national, nationaliste ou pompier.
Parce qu'ils sont pas dans la nature par hasard, ces peintres. Oui. Ils veulent exalter aussi
la
paysannerie.
C'est après le romantisme allemand et ils sont dans une exaltation de la paysannerie authentique, pauvre. Bon. Elle va s'intéresser aux femmes et aux petites filles et elle va les peindre telles qu'elles sont, sans sacralisation. C'est quelque chose qu'elle va développer toute sa courte vie. Ces femmes, elles sont abîmées par la vie, elles ont des vrais corps. Elles ont les seins qui tombent, elles sont ridées. Les gamines sont rachitiques, elles ont le ventre gonflé. Mais elle, c'est pas non plus exactement une peintre de la misère. C'est une peintre de la, moi j'appelle ça la solennité de la petite fille. Mmh. Elle prend les petites filles au sérieux. Les petites filles ne sont pas, chez Paula Modersohn-Becker, recouvertes des clichés de l'innocence, de la pureté, de la joliesse. Ce sont des êtres humains qui savent d'emblée que le monde ne leur appartient pas et qui se tiennent debout sur la terre comme elles peuvent, avec un regard d'une gravité qui m'a bouleversée.
À gauche, un autre tableau de Paula. Ce ne sont pas des beautés classiques. Ce portrait, par exemple, qui est très connu, une jeune femme, la tête légèrement penchée, elle a un gros nez, elle a les pommettes hautes, elle a les cheveux tirés, et dans une forme de méditation. Elle semble pensive, elle ne sourit pas d'ailleurs. Elle regarde au loin.
Allô ?
Allô ?
Kennen Sie die Künstlerin, die Malerin Paula Modersohn-Becker?
Yeah, est-ce que vous connaissez l'artiste, la peintre Paula Modersohn-Becker?
Oui, bien sûr.
Elle est connue en Allemagne?
Oui, très.
En France, on ne la connaît pas.
C'est dommage. La France a tellement de femmes artistes qui ont si bien peint. C'est peut-être pour ça. Mais Paula Modersohn-Becker est l'une des plus belles que nous ayons.
Pouvez-vous décrire?
C'est la mélancolie d'une jeune femme.
Et c'est peut-être à Vorpsved 2.
Peut-être. C'est une jeune femme entre l'enfant et l'adulte. C'est la puberté, l'adolescence.
Et dans le tableau, c'est
Dans l'image, c'est entre l'intérieur et l'extérieur.
In der Natur.
La maison et la nature.
Und dieser Übergang von in der Adoleszenz, von der Kindheit.
C'est ce passage entre l'enfance et l'adulte. Mais l'enfant n'est pas sûr que ce soit une bonne idée de devenir adulte. Ob
es eine gute Idee ist, erwachsen zu werden.
Bonjour, je voulais vous demander si vous connaissez cette peintre.
Pas encore. Mais maintenant, oui. En fait, mon allemand n'est pas très bon, mon anglais est meilleur.
D'où êtes-vous ?
Je suis néerlandaise.
Parce que Paula Modersohn-Becker est très célèbre en Allemagne, c'est pour ça que j'étais étonnée que vous ne la connaissiez pas. Mais aux Pays-Bas, comme en France, elle n'est pas célèbre.
Mais j'aime, c'est très beau. Très humain, naturel. Pur, je trouve.
Celle-ci est une de nos préférées.
C'est un peu triste.
C'est une jeune femme qui réfléchit, elle est solitaire.
Je ne sais pas, mais elle est triste, oui.
J'ai sélectionné ce tableau-là parce que ça pourrait être un tableau presque effrayant. Et c'est ce qu'elle dit, elle dit « Je vois que j'effraie tout le monde autour de moi, mais je dois continuer ». Alors un tableau effrayant d'abord par ses couleurs, puisque c'est des couleurs très ternes, il y a seulement cette tache colorée qui est très centrale, qui est donc l'orange. Le tableau représente une femme, une mère, avec un enfant en bas âge sur ses genoux. La dominante colorée de ce tableau, c'est des bruns, c'est des siennes, mais très peu vifs.
Il y a quelque chose, effectivement, presque de sculptural, voire de primitif.
Complètement. Elle utilisait un terme qui reste un peu mystérieux pour les gens qui ont analysé son travail. Elle parlait de runes, donc des caractères qui se rapporteraient à une civilisation viking. Donc à cette période-là, c'était assez en vogue en Allemagne. Et cette peinture-là, effectivement, a tout d'une atmosphère archaïque.
Les yeux du bébé sont quand même assez effrayants.
Alors, j'allais... c'est ça, je ne les ai pas évoqués dès le début, mais effectivement, c'est peut-être l'élément le plus frappant du tableau. C'est ces deux yeux qui sont presque des trous,
Orbites.
Des orbites. Et pourtant, c'est ce qui est complètement fou dans son travail, c'est qu'il y a toujours ce côté étrange, à la limite, presque du monstrueux pour certains tableaux, mais pour autant, la circulation qu'on peut voir dans la composition fait qu'il y a toujours cette vie, cette animation dans le tableau.
Worpswede, 1897. Aujourd'hui, j'ai peint mon premier portrait en plein air, dans un fossé argileux. Une petite chose blonde aux yeux bleus. Elle était si joliment assise sur la terre jaune. C'était lumineux, chatoyant. J'en avais le cœur qui palpitait. Peindre des êtres humains, c'est finalement plus beau qu'un paysage. Le matin, j'ai peint un vieil homme de l'hospice. Ça s'est très bien passé. Il était là, comme une souche, avec le ciel gris à l'arrière-plan.
Dans son journal, et aussi dans les lettres qu'elle écrit à sa famille et ses sœurs et des amis, elle parle un peu des artistes ici. Et Otto Modersohn, elle écrit alors qu'il était le plus tendre.
Je le trouve très attirant.
Il y a quelque chose de chaleureux.
Il est agréable et d'un abord facile.
Et puis, il était roux. Hein, mais aussi, sa peinture est roux. Toute la chaleur qui est là-dedans.
Et il a une sorte de musique dans sa nature que je peux accompagner sur mon petit violon.
Elle était très sympa.
Sa peinture, déjà, suffirait à m'attirer vers lui. C'est un doux rêveur. 17 cm de plus. Une grande force de sentiment, une barbe rousse, pointue et sérieux, presque mélancolique, avec une aptitude à la joie.
Alors comment se passe l'arrivée de Paula Modersohn-Becker à Paris, puisqu'elle est à Worpswede dans cet environnement artistique, mais ça ne lui suffit pas, elle est aimantée par Paris, où apparemment il se passe quand même des choses artistiquement passionnantes. Elle a envie d'y aller et elle y part toute seule d'abord. Je crois.
Alors elle part toute seule, c'est 17 heures de train. Elle a un petit peu peur. Elle raconte son voyage en train, c'est très pittoresque. C'est l'exposition universelle quand elle y va aussi pour ça. Tout
elle simplement. Arrive à une date bien précise.
Oui, en touriste.
Le 1er janvier 1900.
Oui. Elle voit des choses extraordinaires. Elle voit le premier tapis roulant, par exemple.
Lettre au couple Modersohn 1900.
Il faut que je parle. Il le faut, c'est tout. L'exposition universelle. C'est stupéfiant comme c'est bien. Toutes les merveilles, toutes les nations. C'est pour vous, Otto, si sensible aux couleurs. Chère Madame Moderzohn, je sais que vous êtes souffrante, toutes ces grippes de cet horrible hiver et tous ces rhumes. Mais si vous n'êtes pas capable d'un tel voyage, envoyez votre mari. Bien sûr, il dira non, il ne voudra pas partir sans vous, mais soyez ferme, ne lâchez rien. Une semaine suffira. Il vous reviendra plein d'impressions vives. Quel dommage qu'Otto ne soit pas exposé ici.
Elle s'inscrit à l'Académie de la Grande Chaumière, qui existe toujours. Et elle prend des cours sur modèle nu, ça coûte très cher. À Paris, les femmes ont le droit de peindre à partir de modèles nus. À Rome aussi, c'était possible. Donc Rome et Paris étaient les deux villes suffisamment dépravées, c'était vu comme ça, pour que des jeunes filles puissent accéder à des corps nus. Les Beaux-Arts de Paris venaient d'ouvrir, je crois que ça faisait un an quand Paula est arrivée. Et là, les jeunes filles ont le droit de peindre, mais à partir de cadavres nus. Et c'est l'école de médecine voisine qui donne les cadavres aux Beaux-Arts. C'est toute une époque, il n'y a pas de frigo. Donc ça pue et Paula en sort avec des migraines qu'elle raconte à ses parents. Mais elle apprend, dit-elle, ce qu'est un genou. Cette formulation m'a frappée. Elle a accès à des genoux nus. Voilà, c'est pas si fréquent en fait. Toute sa vie va se poser le problème du modèle. Elle paye des modèles à Paris qui sont les migrantes en fait de l'époque, qui sont les italiennes. Et ce sont les seules femmes qui acceptent pour un peu d'argent de poser nue. Et très rapidement, elle n'aura plus cet argent. Et c'est pour ça que Paula, à mon avis, sans le savoir, est la première femme à se peindre nue. C'est d'abord parce que ça coûte cher.
Paula, de toute façon, a eu un rapport au corps très particulier, très tôt, puisque quand elle était jeune, elle a fait beaucoup de sport. Et sa famille a accepté qu'elle soit dans cette mouvance un petit peu. Vous savez, c'était l'époque des réformateurs en Allemagne qui prônaient le grand air, etc. Donc elle a fait beaucoup de sport à l'extérieur et parfois entièrement nue. Elle a continué lorsqu'elle a habité ensuite à Worpswed.
Elle est évidemment dans un contexte historique à cette période-là où il y a un mouvement qui s'appelle Lebensreform, donc qui est tournée vers le retour à la nature, en contradiction avec la vie à la ville. Elle a une grande confiance et connaissance de son corps, d'où ces magnifiques peintures où on la voit se tenir devant un miroir, absolument voilà, campée sur ses pieds, reprenant des poses de la Vénus de Cranach ou de la Vénus de Botticelli. Donc elle est à la fois complètement dans son temps et en même temps très au courant, très en lien avec toute la peinture ancienne.
Et Montmartre, et le printemps en fleurs, et la galerie de sculptures du Louvre, et Rodin, ce titan, et les orchestres hongrois sous les lanternes chinoises, et la tour Eiffel et la grande roue. Vraiment, Paris, ça c'est une ville. Monsieur Moderzohn, répondez-moi par courrier que vous venez. Oui, vous devez venir. Votre Paula Baker. Mais vite, avant qu'il ne fasse trop chaud.
Je me suis aperçue finalement que j'étais sa voisine, moi. On est dans le 14e arrondissement. Moi, j'ai grandi devant le jardin du Luxembourg. Donc, tous les lieux qu'elle a fréquentés, la rue Campagne Première, voilà, Colarossi, tous les endroits où elle allait étudier, le jardin du Luxembourg où elle allait se promener, elle allait croquer les enfants quand elle est à Paris. Enfin, tu sais, je me suis dit, mais c'est fou parce que moi, je suis née en 1976, elle est née en 1876. Ce qui m'a intéressée surtout, c'est cette évolution, ce destin qui est en fait rythmé par ses quatre visites à Paris. La première fois qu'elle se rend à Paris, elle va découvrir la peinture française, elle va découvrir Cézanne, elle va au Louvre aussi, le Louvre qui, elle le décrit, le Louvre qui est en très mauvais état à l'époque, le parquet est complètement troué de toutes parts, il y a des ivrognes qui cuvent, enfin ça n'a rien à voir avec maintenant, et elle va dessiner, elle va découvrir aussi les peintres du Fayoum, enfin toute l'histoire finalement de la peinture qui va entrer en elle et qui va lui permettre d'avancer énormément à une vitesse vertigineuse.
Elle va aussi bien sûr chez des galeristes, et c'est ainsi qu'elle va faire la connaissance chez Vollard des toiles de Cézanne. Il y a des tableaux qui sont retournés contre le mur et elle, par curiosité, comme c'est une curieuse et une inventive, elle va regarder et elle découvre donc la lumière provençale et aussi les natures mortes de ce peintre qui aura une grande influence sur son regard, sur son environnement, effectivement.
Paris, c'est synonyme de liberté, mais aussi de grivoiserie, de libertinage, de tout ce qui n'existe pas finalement en Allemagne. Ça va jusque dans la façon de s'habiller, la beauté des chapeaux en France par rapport à... On se moque dans la rue parce qu'elle a un chapeau gris très, 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 un peu sinistre.
C'est pas quelqu'un d'apprêté. Voilà. Elle s'habille un peu comme dans les Budenbrock. Elle a des cols montants.
Elle qu'à Paris, d'ailleurs, elle a un look un peu qui détonne un peu.
Oui, c'est tellement drôle dans son journal. Elle a pas le bon chapeau. Elle vient de Brême, hein, donc quand on arrive à Paris avec toutes ces élégantes, elle se rend compte très vite que c'est pas le bon chapeau. Elle court au bon marché en acheter un.
Cher Monsieur Moderzone, je suis tellement, énormément contente que vous veniez. Quelle fête ce sera!
Elle est heureuse et elle est amoureuse. Parce que ça fait très peu de temps qu'elle est dans cette colonie à Worpswede, en Allemagne. Elle a déjà rencontré celui qui va devenir l'homme de sa vie, mais son mari, Otto Moderzson. Elle lui dit de le rejoindre, il va la rejoindre. Mais sa femme meurt, son épouse meurt de tuberculose.
Parce qu'il est marié, Otto.
Otto est marié, il a une fille qui s'appelle Lisbeth, et il a été marié à une jeune femme tuberculeuse qui a eu un enfant. Ça s'est aggravé, donc elle meurt. Mais eux sont déjà amoureux, hein. Donc il y a déjà cette espèce de culpabilité qui plane.
Mes chers parents, voilà une bien triste fin à mon séjour parisien. Et la période qui vient à Worpswede sera aussi triste et difficile. J'ai tant reçu de la compagnie de Moderzone ces derniers jours.
Alors là, on est en train de se déplacer au sein du village de Worpswede. Oui. On est en fait un peu au milieu de la forêt. Et on va vers le Barkenhof.
Oui, le Barkenhof, c'est un des lieux les plus importants ici à Worpswede. C'est construit par Heinrich Vogeler, qui était un des fondateurs de la colonie de Worpswede. Et l'artiste le plus particulier, parce que c'était un artiste de l'art nouveau, en fait.
Il recevait les artistes de la colonie, dont Paola.
Oui, les artistes. Et on a vécu l'art en quelque sorte. Ça veut dire qu'on a déclamé des poésies. Alors, par exemple, Rainer Maria Rilke, qui était souvent aussi là, il a récité ses poèmes. Et les autres ont aussi, ils ont chanté, ils ont dansé, tout ensemble. Et ce n'était pas tous les artistes de Worpswede, c'était en particulier trois artistes avec des jeunes femmes, Otto Moderzson, Heinrich Vogeler et Rilke. Et les femmes, c'était Paula Becker, Clara Westhoff et Martha Schröder.
Elle fait une grande rencontre, c'est Clara Westhoff qui va devenir sa meilleure amie, qui elle se forme pour être sculptrice. Alors ça, c'est l'été 1900, c'est un été magique, on a des photos. Ils se sont beaucoup pris en photo. Les deux jeunes femmes, Clara et Paula, ont des grandes robes blanches. C'est très beau. Et Rilke tombe très amoureux des deux, en fait. La grande brune, Clara Westhoff, et la petite blonde rousse, Paula Becker. Rilke vient d'être quitté par Lou Andrea Salomé. Il en est éberlué. Et il lui écrit tous les jours des lettres à Lou Andrea Salomé, lui racontant comment il tombe amoureux de ces deux jeunes femmes. À la Rilke, c'est des lettres très belles et toujours légèrement obscures qui vont finir par agacer beaucoup Otto Moderzson, par exemple. Donc l'histoire, c'est que Rilke étant amoureux des deux à la fois, Paula flirte avec lui, vraiment on le lit dans leurs lettres, elle finit par lui avouer assez tard qu'elle est fiancée à Otto, zut. Et donc Rilke, piqué, épouse Clara. Moi je le vois vraiment comme ça, c'est un mariage de dépit en fait. Il ne peut pas avoir les deux, alors il en prend une.
Ce qu'il a peint plusieurs fois, c'est l'église. Et plusieurs fois.
Devant ça, laquelle c'est... nous sommes aujourd'hui.
Oui, il y a une petite histoire avec cette église, avec Clara Westhoff et Paula Becker. À cette époque-là, l'église était en rénovation. Et alors, toutes les artistes qui étaient ici ont aidé un peu. Et les jeunes femmes ont aussi aidé. Et Clara, elle était plasticienne. Alors, elle a créé des têtes d'ange avec des ailes. Elle voulait montrer à Paola ce qu'elle a fait, mais l'église était, c'était un dimanche et l'église était fermée l'après-midi. Alors ils sont entrés par la tour. Ils étaient en hauteur, puis ils ont regardé le panorama et puis elle était un peu enthousiasmée d'elle-même un peu. Et l'un des deux a tiré la corde de la cloche et puis ah, ça sonnait bien et puis ah, les deux ont continué. Alors, de tirer les cloches, ils ont sonné fortement, mais c'était en dehors des heures régulières. Bon, alors, ça, à cette époque-là, c'était toujours l'alarme d'incendie. Les pompiers sont venus ici avec la pompe, et on a trouvé, il n'y a rien. C'était quelque chose de grave pour le village et pour les gens, c'est parce que c'était cher. On a dit, alors Clara, elle fait plus des anges, et puis Paola, elle peint des fleurs sur les murs de l'église. Alors ça, c'était le Tischtraf.
C'était la punition.
La punition pour les deux. Aujourd'hui, on voit les anges et les fleurs. Je ne sais pas si c'est ouvert.
Si l'église est ouverte.
On va essayer. Là, on voit les petits anges, et là, il y a les fleurs.
On voit les anges de Clara Westhoff.
Oui.
Et là-dessous. De Paula Modersohn, Becker. Des tournesols, toutes sortes de fleurs différentes.
Oui.
Ah, c'est chouette.
Clara a un mari désormais. Il semble que je ne fasse plus partie de sa vie. Il faut qu'en premier lieu, je m'y habitue. Je me languis. Parce que c'était beau avec elle.
Lettre à Clara, 1901.
Chère Clara Westhoff, ne te sens-tu jamais portée vers mon petit atelier? Bien des choses t'y attendent, parmi lesquelles une jeune épouse. Mais l'attente devient très longue et triste pour elle. Je suis ta Paula Becker.
C'était une stratégie pour de nombreuses femmes artistes du tournant du siècle de faire couple en pouvant bénéficier de l'appui financier d'un époux qui leur offrait donc une sorte de sécurité matérielle. Elles avaient aussi plus facilement ainsi accès à des ateliers ou matériel de peinture. Et on peut observer ça chez de nombreux couples en Europe. Par exemple, le couple d'artistes, Gabriel Münter et son époux Kandinsky. Et c'est vrai que Paula Modersohn-Becker a pu ainsi bénéficier tout au long de sa carrière du regard bienveillant de son époux. Alors c'est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas dans ce couple et que Paula Modersohn s'est vraiment beaucoup interrogée sur sa vie de créatrice qui était souvent en opposition à sa vie de femme, d'épouse et d'éventuelle mère, puisqu'elle s'est même séparée de son mari en partant à Paris en 1906 sans lui. Mais même durant cette séparation, il a continué de l'entretenir et d'envoyer de l'argent et donc de l'aider justement à vivre son rêve parisien.
Paula, elle s'est occupée en excellente belle-mère de la fille de Otto Modersohn, Lisbeth, qu'elle adorait, qu'elle a beaucoup peint. Mais tenir un intérieur, elle n'était pas sur terre pour ça. Même si elle a accepté d'aller passer 2 mois dans une académie de cuisine à Berlin, parce que il était hors de question qu'elle ne sache pas cuisiner pour son mari.
Journal d'Otto.
Paula peint, lit et joue du piano. La maison est entre de bonnes mains. C'est seulement son intérêt pour la famille et sa relation à la maison qui est trop faible. J'espère que ça va s'améliorer. En peinture, elle déteste le conventionnel et tombe maintenant dans l'erreur de préférer l'anguleux, le laid, le bizarre. Le dur. Ses couleurs sont formidables, mais la forme, l'expression, des mains comme des cuillères, des nez comme des épis, des bouches comme des blessures, des visages de crétins, elle charge tout. Et inutile d'essayer de la conseiller, comme d'habitude.
Une des choses qui a été mise en exergue d'emblée pour la vie de Paula, et que j'ai trouvé d'emblée, vers 2012, je dirais, dans le Wikipédia français qui lui était consacré, qui était très court à l'époque. Maintenant, ça s'est beaucoup développé. Mais il y avait un extrait de son journal, qui était l'extrait qui tournait un peu partout, qui est « Je sais aujourd'hui que le mariage est une déception. En gros, je m'ennuie. J'écris ceci en surveillant le rôti de veau, le lundi de Pâques, 1902, je crois, ou 3. » C'est très frappant. On la voit dans sa cuisine devant son rôti de veau au lieu de peindre. Quand on cherche un peu mieux, on s'aperçoit que le lundi de Pâques était un des très rares jours de vacances de la domestique. Et c'est pour ça que Madame Modersohn devait surveiller ce jour-là le rôti de veau. Mmh. C'était pas sa vie quotidienne. Donc la première édition du journal est très... oui, il y a cette touche de sacrifice, voilà. C'était pas exactement ça.
La première année de mon mariage, j'ai beaucoup pleuré. Et des sanglots comme ceux de l'enfance. L'expérience m'a enseigné que le mariage ne rend pas plus heureuse. Il ôte l'illusion d'une âme sœur, croyance qui occupait jusque-là tout l'espace. Dans le mariage, le sentiment d'incompréhension redouble, car toute la vie antérieure au mariage était une recherche de cet espace de compromis. Est-ce que ce n'est pas mieux ainsi, sans cette illusion, face à face avec une seule, grande et solitaire vérité? J'écris ceci dans mon carnet de dépenses, le dimanche de Pâques 1902, assise dans ma cuisine à préparer un rôti de veau.
Paula, elle peint de 9h à midi, ensuite elle déjeune, ensuite elle fait une petite sieste, puis elle repeint dans l'après-midi. Elle dépend financièrement de son mari, mais ça va.
Ouais, et son mari, elle a même un atelier à elle.
Oui, oui, son mari n'aime pas ce qu'elle peint, mais il a organisé le fait qu'elle puisse peindre, ça c'est certain. Et il la subventionne quand elle va à Paris, y compris quand elle le quitte. Il y a des lettres terribles où elle lui réclame de l'argent, mais elle lui ordonne de lui envoyer de l'argent. C'est une femme qui a beaucoup de caractère, qui est très obstinée. Et l'obstination, c'est ce qu'il faut à une femme pour créer, même aujourd'hui. Il faut de l'obstination, il faut de l'égoïsme, sinon on n'y arrive pas. Et l'égoïsme qui est perçu naturellement chez les hommes, en fait. Donc il faut vraiment affirmer qu'on a besoin de ce temps-là, et elle avait besoin de sa matinée et de son après-midi pour peindre.
Le bâtiment, là, aujourd'hui, ça s'appelle das Alte Rathaus. Alors,
l'ancienne mairie.
Oui, c'est ça. Mais au temps de Paula Modersohn-Beck, c'était un hospice pour les pauvres. Et alors, on a l'atelier de Paula chez Brunius là, et on a la maison ici. Elle est passée souvent par là. Et là, elle a trouvé ses modèles préférés. Des vieilles femmes, des vieux paysans qui ont vécu là. Et pour elle, c'était une possibilité d'avoir des modèles pas chers.
Pas cher. Elle leur
donnait combien ? Oui. Bon, ça, je sais pas, quelques pfennigs, on dirait, quelques centimes. Hein. Mais pour eux, c'était déjà quelque chose. C'était une jeune femme qui a payé quelque chose, qui a amélioré quelque chose. Mais en même temps qu'elle a profité de ça, elle avait des remords. Alors c'était un lieu très important pour l'œuvre de Paula Modersohn-Becker.
Aujourd'hui, c'est une galerie d'art.
Oui, de la commune.
Lettre à sa mère, 1902.
Mère, pardon pour cette lettre peu ponctuelle. Il n'y a de place pour rien d'autre que ma dévotion au travail. C'est l'aube en moi et le jour approche. Je vais devenir quelqu'un. Je n'aurai plus à avoir honte et à rester silencieuse et je sentirai avec fierté que je suis peintre.
Pour moi, elle peint vraiment des masses. C'est des corps qui sont massifs, qui sont pesants. Et ce qui est fou, c'est que finalement, ça n'empêche pas un élan de vie, en fait, dans son travail. C'est ce qu'elle recherchait, c'est-à-dire qu'elle recherchait un souffle de vie, des vibrations, une vibration, c'est ce qu'elle emploie comme terme. Moi, ça confirme tellement d'intuition, et je pense que ça fonctionne souvent comme ça, c'est-à-dire que Paula, c'était une artiste qui était très, très au fait de tous les peintres de son époque, donc ça allait de Picasso à Cézanne, au douanier Rousseau qu'elle avait rencontré. On peut dire effectivement qu'elle s'en est inspirée, mais en même temps, on voit bien qu'elle avait déjà des intuitions et qu'à chaque fois, elle trouve confirmation dans la rencontre avec ses peintres. Et par exemple, moi, ce que j'aime dans ce portrait, c'est qu'elle va omettre ce petit contour ici et tout d'un coup, créer un autre espace de peinture qui est absolument inattendu, en fait.
Le visage est mangé. En fait, c'est pas extrêmement réaliste. Il y a déjà des distorsions dans la figuration. Ouais.
Alors, il y a des contours très épais à certains endroits, par exemple celui de la main, mais tout d'un coup, elle va presque effacer un des deux sourcils.
Elle tient deux fleurs rouges.
C'est une récurrence, en fait, dans ces tableaux, d'avoir des figures qui brandissent presque ou qui tiennent des objets devant eux. D'abord, c'est une adresse intense au spectateur. C'est vraiment « regardez-moi, regardez la fleur, regardez derrière la fleur ». Donc tout d'un coup, elle va construire un espace en fait avec ses objets. Ça peut être des fois des fruits, ça peut être des fleurs, ça peut être un vase. C'est une manière aussi, à la fois d'établir cette relation dont je parlais avec le spectateur, mais aussi de le tenir à distance. Donc il y a toujours quand même cette distance malgré tout qui crée un mystère en fait. Et puis il y a aussi le fait que voir une figure qui tout d'un coup élève un objet comme ça devant, tout d'un coup c'est un geste en fait. Et donc si à un moment donné on a soulevé cette fleur ou ce vase, ça veut dire qu'à un moment donné on va relâcher ce geste et on va reposer.
La personne est quand même en, elle est en mouvement, elle est animée.
En fait, c'est un processus narratif parce que c'est à la fois symbolique, mais c'est aussi une manière d'amener effectivement un temps, un mouvement dans la peinture. C'est toujours ce qu'on cherche à faire dans la peinture, parce que la peinture, c'est un plan, et je pense que c'est vraiment des questions de temps et d'espace, la peinture.
Franck Schmitt, nous sommes avec vous au musée Paula Modersohn-Becker de Brême, que vous dirigez. On sait que Paula Modersohn-Becker a quelquefois peint les gens qu'elle connaissait, dont Rainer Maria Rilke, dont nous pouvons voir le portrait juste là.
Regardez, ce n'est pas vraiment flatteur. Il a dû se dire, est-ce que c'est vraiment moi ? Je pense qu'il n'a pas aimé. Il y a une histoire amusante. Vous voyez, c'est très pâle, comme un masque, avec cette drôle de barbe qu'il avait vraiment. Mais là, on dirait du béton. Et peu de temps après, il a coupé sa barbe. Donc ça a peut-être à voir avec le tableau.
Il y a une histoire d'amour unique entre les deux. Et il y a quelque chose en fait qui était tellement puissant probablement, c'est quelque chose qui ne pouvait pas se vivre physiquement. Ça pouvait se vivre à travers l'art, donc à travers effectivement tous les artistes entre eux qu'ils ont pu se faire découvrir et découvrir. Pour eux, l'art, c'était quelque chose de suprême. Ça passait avant la vie, quasiment. Enfin, c'était la vie. C'est fascinant. Il y a eu ce collier aussi qui revient comme un leitmotiv. Il y a un livre qui lui offre, qui est, je crois, un livre d'un romantique scandinave qui a beaucoup marqué son époque. Et c'est une histoire d'amour entre un homme plus jeune et une femme. Il y a un collier. Il y a la symbolique du collier. Il y a un collier d'ambre dans le livre qui est offert. Et elle va se peindre à plusieurs reprises avec ce collier. Il y a plein de choses qu'on peut...
Il y a plein de symboles,
qui se promènent.
Cher Otto, combien je t'aimais. Mais je ne peux pas revenir vers toi maintenant. Je ne peux pas. Je ne veux pas non plus te voir ailleurs. Et je ne veux aucun enfant de toi. Pas maintenant.
Il l'encourage à quitter Otto, au sens vraiment très concret. Il fait ce très beau geste, Rilke, il n'a pas d'argent lui-même, hein, d'acheter à Paula un tableau. Elle n'en vendra que 5. On se dispute un peu, les spécialistes, 4-5 dans sa vie. Il lui achète un tableau, c'est extraordinaire, un tableau de nourrisson, ce très mauvais père. Le tableau est exposé à la Kunsthalle de Brême. C'est un très joli tableau, petit. Je pense qu'il l'a choisi aussi parce qu'il est transportable, ce tableau, dans son nomadisme. Il entre dans une malle, c'est un carré. Et il lui paye 100 francs, ça se passe à Paris, c'est une somme. 100 francs, ça lui permet de payer 3 mois de loyer, je dirais. Ouais.
Elle a fui sa maison, elle a fui cette colonie d'artistes où elle est en train de dépérir, de mourir. Plus personne ne la comprend. Son mari pense qu'elle va dans des endroits où elle ne devrait pas aller artistiquement, qu'elle est en train de saboter son talent. Elle est totalement incomprise, le mariage n'a toujours pas été consommé et elle fuit avec l'aide de Rilke, elle fuit avec l'aide de Clara, donc la femme de Rilke, et elle va partir dans la nuit, elle prend une carriole, ça fait des mois qu'elle prépare sa valise et elle va arriver Gare du Nord. Elle a demandé à Rilke de lui louer une minuscule petite chambre, elle a 3 francs 6 sous et elle va se dire voilà, ma vie maintenant c'est que pour moi, et c'est la peinture. Elle continue donc à rencontrer un tas d'artistes magnifiques, mais le destin va la rattraper.
Elle va rencontrer les plus grands, elle va même rencontrer Picasso. C'est une de ses biographes, la biographe américaine Diane Radicki, qui raconte que non seulement elle a vu une exposition Picasso en 1905, mais elle va faire sa connaissance... lors d'une soirée, en fait, où un peintre espagnol, Zuloaga, avait invité Rilke et Rodin à l'occasion de la naissance de son enfant. Et ils se sont rencontrés, et la biographe américaine émet même une hypothèse que je trouve assez fascinante, comme quoi Picasso aurait été influencé par l'étoile de Paula. Et effectivement, le portrait de Gertrude Stein, qu'il achève cette année-là, entre 1906 et 1907, c'est relativement fascinant. Le regard et le visage ont vraiment le regard, le visage des femmes peintes par Paula Modersohn.
Ouais, ce tableau, il a des couleurs terreuses, le visage, il est, ça annonce presque des demoiselles d'Avignon.
Tout à fait. C'est vrai que c'est une hypothèse qui m'a séduite et que cette biographe, qui a aussi traduit en anglais les journaux et les lettres de Paula Modersohn Becker, c'est une hypothèse qu'elle défend, bec et ongles. Donc pourquoi pas, ça peut être intéressant.
Elle veut absolument dépasser l'impressionnisme et donc elle est très en phase d'ailleurs avec ce que dit Matisse à ce propos, qui justement veut s'éloigner de ce côté impermanent des choses et qui au contraire veut essayer de représenter une réalité plus stable. Ils sont plus vraiment intéressés par la dissolution, par l'éphémère, mais au contraire par quelque chose de plus durable, de plus impermanent. On voit dans ces tout derniers tableaux, il y a un petit tableau avec un chat qui est vraiment très audacieux parce que c'est un tout petit format. Les choses sont à peine esquissées. Voilà, on dirait que c'est peint presque avec les mains, en fait. Et elle le dit, elle, ce qu'elle cherche, c'est, comme tous les peintres et tous les artistes, elle dit « je suis moi ».
Je ne suis plus Modersohn. Et je ne suis plus Paula Becker non plus.
Je crois que c'est en 1906, donc un an avant sa mort. Elle dit « je suis moi et j'espère que je vais devenir de plus en plus ».
Et j'espère devenir moi de plus en plus.
Et je pense que c'est un des buts ultimes de nos luttes intérieures, en fait.
Otto est venu la reprendre,
oui.
En fait.
Otto est resté très amoureux d'elle. C'est beau aussi. Amoureux, malheureux. C'est un couple déséquilibré. Il l'aime beaucoup plus qu'elle ne l'aime. Et on sent, on n'a pas les lettres là, mais on devine qu'il y a presque une forme de chantage, c'est-à-dire « tu reviens et on fait un enfant ». C'est ce que je comprends. Otto disant à Paula « tu reviens et on fait un enfant ».
Mais pourquoi accepte-t-elle ce chantage ? Parce qu'elle n'a plus d'argent. Lettre à sa sœur Milly, 1906.
J'ai pris conscience cet été que je ne suis pas femme à savoir rester seule. Ce qui compte le plus, la paix pour mon travail. Et ça, je l'ai aux côtés d'Otto.
Lettre à Clara, 1906.
Otto, l'homme est touchant dans son amour et je serai reconnaissante de l'amour qu'on me donne, si je peux rester en bonne santé et ne pas mourir trop jeune.
Elle accepte ce chantage, hein, je le mets entre guillemets, parce qu'encore une fois, c'est, oui, cette supplique presque. Elle n'a plus d'argent du tout. Et c'est curieux de voir aussi le temps qu'elle met à comprendre qu'il faut de l'argent pour vivre, en fait. Et que non, elle n'en a pas, et qu'elle n'a aucun moyen d'en gagner. C'est déchirant.
Lettre à sa sœur Milly, 1907.
Zut, le gosse m'a fait tomber de ma chaise. Voilà comment je me sens. La seule chose à faire, c'est d'être patiente avec moi. Sinon, il ou elle va s'énerver aussi. Et ne m'écris plus jamais avec des mots comme « l'ange » ou « heureux événement ». Tu me connais assez pour te rendre compte que je suis du genre à préférer garder pour moi le fait d'être bientôt concernée par des langes.
Les témoignages tendent à dire que quand elle a eu, après un accouchement cauchemardesque de 48 heures, quand elle a fini par mettre au monde Mathilde, elle semblait très heureuse d'avoir ce bébé. La vie s'ouvrait d'une autre façon.
Alors, qu'est-ce qui se passe après cet accouchement ?
Après cet accouchement, elle a beaucoup saigné, enfin, c'est affreux. Le médecin, de bonne foi, hein, lui dit de garder le lit. C'est comme ça qu'on faisait. Un spécialiste de l'embolie pulmonaire m'a expliqué que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire, donc, 3 semaines après, quand elle va se lever, son sang va se remettre en mouvement et un caillot va aller percuter ses poumons et elle va mourir d'une embolie pulmonaire. En fait, il aurait fallu qu'elle marche.
Elle a quel âge ?
Elle a 31 ans. C'est déchirant d'autant plus qu'elle était très heureuse d'avoir la permission de se lever au bout de 3 semaines, de pouvoir être mobile avec sa fille. Et elle avait demandé, c'est le mois de novembre, il fait très sombre à Worpswede, elle avait demandé qu'on mette des bougies partout, des fleurs. Elle est très bien coiffée, elle s'est fait des tresses dans les cheveux. Elle s'apprête à se lever et elle a réuni ses amis et sa famille. Donc ses amis et sa famille assistent à son effondrement. Elle s'écroule, elle tombe par terre en disant « Chad, dommage ». Mon ami Wolfgang Werner à Brême me dit « Mais c'est une légende, elle n'a jamais dit Chad ». Moi, j'ai envie d'y croire. Mais c'est un grand spécialiste de son travail et on a besoin aussi qu'il y ait des gens très sceptiques, des conservateurs sceptiques. Voilà. Il ne faut pas trop la romantiser.
C'est ainsi que tu mourus comme mouraient les femmes d'autrefois. Tu mourus d'une mort démodée dans la chaude maison, de la mort des femmes en couche qui veulent se refermer et ne le peuvent plus. Parce que cette obscurité dont elles ont accouché avec l'enfant revient, impérative, et rentre en elles.
Requiem de Rainer Maria Rilke.
Moi, ça me manque, la suite. C'est une contemporaine exacte de Picasso. Elle est proto-cubiste, hein, selon certains spécialistes. Elle était en train, avec d'autres et avec Picasso, d'inventer le cubisme. On le voit sur l'étoile de la fin. C'est extrêmement dommage. Moi, ça me manque, la suite de son œuvre. Pendant des années, après sa mort, Paula Modersohn-Becker était une jeune femme sacrifiée à l'art, qui avait brûlé sa vie pour pouvoir peindre. Et ça, c'est la façon dont sa maman, qui l'adorait, elle a été dévastée par la mort de sa fille, sa maman l'a mise en scène en éditant le journal de sa fille, en coupant beaucoup. Par exemple, elle a gardé les lettres et les bouts de journaux où Paula dit « Je sais que je mourrai jeune ». Elle a enlevé la suite qui disait « Mais non, en fait, j'ai pas du tout envie et ça va aller, je suis en pleine forme ». Un épisode à la fois bouleversant et frappant pour dire la grande notoriété qu'a eu Paula Modersohn-Becker juste après sa mort, c'est que Rilke, en 1923, est dans un de ses nombreux châteaux, parce que Rilke a passé sa vie à être hébergé de château en château, et à côté de son lit, il y a un best-seller de l'époque qui est le journal de son amie Paula Becker, en 1923. Et en fait, il le relit pendant la nuit, il est bouleversé. Et il apprend que c'est en fait un journal qui a été laissé là par la femme de chambre. C'est pour dire aussi que c'était un journal très populaire, que lisaient les classes populaires. Paula était une sorte d'héroïne sacrifiée à l'art. Chose qu'elle n'est pas exactement.
La place est un peu cachée, quand même. Paula Modersohn-Becker est morte en 1907. Et elle a écrit que je veux qu'il y ait un petit carré vert. Et puis quelques fleurs autour. Alors, tout humble, tout modeste. Pour elle, c'était important. Mais après sa mort, on n'a pas respecté ça. Et Vogeler, Modersohn, Höttger ont en quelque sorte disputé comment le tombeau devrait être créé.
Oui, Bernard Höttger était un sculpteur que Paula avait rencontré l'année précédente à Paris et qui croyait énormément en son talent.
Mais celui qui s'était imposé des autres, c'était Bernard Höttger. Parce que lui, il a dit, Paula a dit que c'est moi qui devais créer son tombeau. Et comme il était le grand propagandiste de Paula et celui qui a vraiment aidé à faire connaître l'œuvre de Paula, on n'osait pas de lui contredire en ce moment-là. Et puis il a fait des esquisses différentes. Il y avait une qu'on ne voulait pas ici à Vorpswede parce qu'il y avait des femmes nues là-dessus. Et puis, elle a pris cette figure, une femme. C'est à vous à expliquer ça un peu, décrire un peu.
C'est je vais prendre le relais. On a devant nous le tombeau de Paula Modersohn-Becker avec cette sculpture assez monumentale d'une femme allongée. Et dans son giron, vraiment sur ses cuisses, on a un petit bébé qui est assis en tailleur. Il semble avoir quelque chose dans les mains, comme souvent les personnages de ces tableaux. Lui, il est vivant, et elle est... peut-être qu'elle est en train d'agoniser.
C'est ça. Elle meurt, et l'enfant est en train de grandir.
Quand Paula meurt, son propre mari, Otto Modersohn, il va ouvrir l'atelier de son épouse et il va être stupéfait par la masse de travail qu'elle a produit. On estime qu'il y avait à peu près 1000 toiles, dont 300 ont disparu pendant la guerre, et des milliers de dessins.
Et il est stupéfait parce qu'elle ne montre pas, parce qu'elle ne peut pas vraiment montrer, parce qu'il n'y a pas vraiment d'instance pour exposer, pour partager.
Les deux seules fois où elle expose, c'est une exposition de groupe et on la classe dans la peinture de dame, hein, c'est dit comme ça, et on dit qu'elle est une insulte à la femme allemande et que c'est un art qui donne envie de vomir. Il y a quand même un critique qui prend sa défense, mais ça sert à rien en fait. C'est impossible d'exposer pour elle en 1900, 1901, 1902, c'est impossible.
Peu de temps après sa mort, des collectionneurs ont commencé à acheter ses toiles. Ludwig Roselius, l'inventeur du décaféiné, fondateur des cafés Hag, présent dans une vingtaine de pays, a gagné beaucoup d'argent avec ça. Mais il était de Brême et voulait notamment y développer le tourisme. C'était le but dans les années 20. Et bien sûr, faire la publicité de son café. Et il se souciait aussi d'art. Comme il possédait beaucoup de tableaux de Paula Modersohn-Becker, il a voulu construire un musée à son nom. C'est le premier musée au monde qui porte le nom d'une femme. Il a été ouvert en 1927. Roselius pensait, et il avait raison, que c'était l'une des artistes allemandes les plus importantes. C'est pour ça qu'il a fait construire le musée. Pas parce qu'elle était une femme, mais parce qu'elle était une très bonne peintre.
Et qu'est-il arrivé au tableau de Paula quand les nazis ont pris le pouvoir en Allemagne ?
Elle a fait partie des artistes dégénérés. En 1937, ces tableaux ont été décrochés des musées nationaux ou municipaux et vendus aux enchères, notamment en Suisse. Donc, une partie de son œuvre est désormais aux États-Unis ou en Suisse. Avant, c'était dans les musées de Hanovre et de Hambourg, par exemple. Mais comme Ludwig Roselius était un collectionneur privé, on ne pouvait pas toucher à sa collection. Donc, il a pu la garder. Mais le musée a été fermé. Depuis 10 ans, elle est de plus en plus connue à l'étranger. Donc, nous avons davantage de visiteurs. Les gens réalisent qu'il y a des artistes femmes merveilleuses qui ont été oubliées par l'histoire de l'art. Paula Modersohn-Becker est bien sûr l'une d'entre elles. Et beaucoup de musées veulent l'exposer.
Est-ce qu'on peut voir des œuvres de Paula dans les musées en France ?
C'est vraiment dommage, non, il n'y en a toujours pas. Je dois dire que certains musées ont voulu en acheter, mais une majorité de son œuvre est dans des collections publiques. Donc ce n'est pas facile d'acquérir des tableaux importants. Mais il y a des efforts dans ce sens.
Merci à Marie Dariussec, Maya Brami, Sabine Osnack, Maud Maris, Stéphane Borchardt et Franck Schmitt.
Que nous ayons eu peur quand tu mourus, ou plutôt non, qu'obscurément ta forte mort nous ait interrompus, séparant violemment les jours d'avant et ceux d'après, cela, c'est notre affaire. Y mettre ordre sera la même tâche que nous accomplissons avec tout. Mais que toi-même, tu aies eu peur, que maintenant encore, tu connaisses la peur, là où la peur n'a plus cours, cela souvent m'éveille la nuit.
Extrait du journal et des lettres de Paula Modersohn-Becker et du Requiem de Rainer Maria Rilke. Lecture Maëlys Favreau, Gary Guéner, Lionel Quentin, Éric Charon. Documentation Annelise Signoret. Prise de son Alexandre James, Gilles Gallinaro. Mixage Claire Levasseur. Attaché d'émission Sandrine Chaperon. Coordination Emmanuel Laurentin. Merci également à Ici Toulouse.
Les fruits dans leur plénitude. Tu les pesais sur des coupes devant toi, tu en évaluais le poids par les couleurs. Et comme des fruits aussi, tu regardais les femmes et les enfants d'eux-mêmes, modelés par une poussée intérieure jusqu'aux formes de leur existence. Et pour finir, toi-même, tu te vis comme un fruit. Tu te dépouillas de tes vêtements. Tu allas te placer devant le miroir et tu t'y enfonças jusqu'à y perdre ton regard. Lequel, gardant courage, s'abstint de dire « c'est moi ». Non, ceci est.
Paula Modersohn-Becker, la peinture absolument. Un documentaire de Julien Thèves, réalisé par Marie-Laure Ciboulet.